Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lors des pro-mobilisations partielles de son peuple, Vladimir Poutine a annoncé ce matin quasiment l'état de guerre générale de la Russie. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple, a-t-il déclaré. Ce discours marque une nouvelle escalade du président russe. Cette fois, la situation est un peu plus grave ou un peu plus dramatique. Un conflit général, une guerre nucléaire, il ne faut désormais plus rien exclure. Aujourd'hui, personne ne croit jamais au pire. L'histoire nous l'apprend. Personne ne croit jamais au pire, mais le pire arrive. Puissions-nous échapper à ce destin funeste, même si ce mercredi, la tension entre l'Occident et la Russie a franchi une étape. Il est 9h03, Audrey Berthaud.
L'Occident essaye donc de détruire la Russie, ce sont les mots de Vladimir Poutine il y a quelques minutes lors d'une allocution télévisée. Après l'annonce de référendum en Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé donc une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. Un refus d'obtempérer à Anzin dans le Nord lundi soir. Un policier a été sérieusement blessé après avoir été percuté par un véhicule. Le conducteur est poursuivi pour tentative d'homicide sur policier. C'est un Marocain de 29 ans, condamné à plusieurs reprises. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis février dernier. Le procureur de Valenciennes prendra la parole à ce sujet à 15h30. Enfin, l'affaire Pogba. Un cinquième suspect a été placé en détention provisoire hier. Il s'agit d'un proche des frères Pogba. Il avait été mis en examen samedi dernier. Il est soupçonné avec 4 autres individus d'extorsion de fonds à l'égard de Paul Pogba.
Eugénie Basti, Eric Nolot, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Harold Iman, je vous remercie d'être avec nous. Harold, personne ne croit jamais au pire. Personne ne peut imaginer une guerre nucléaire. Personne.
Non, même les spécialistes n'y arrivent pas.
Mais quand le président russe dit ce matin, nous utiliserons tous les moyens mis à notre disposition. Que faut-il entendre dans cette phrase ?
Il a déjà dit que si on nous y obligeait. Donc, dans la dialectique nucléaire, c'est le premier qui en parle qui a déclenché le processus. Or, si on remonte au début de cette guerre, c'est Poutine qui en a parlé le premier. Mais ensuite, on lui a répondu. Donc, on est parti dans cette dialectique-là. Donc, je ne pense pas que ce soit plus une menace que ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Vous ne diriez pas qu'il y a une escalade ? Ce matin, dans ses propos, on l'écoute et après vous répondez à cette question.
Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition.
Concernerait 300 000 personnes en Russie. Est-ce que vous diriez, je disais, c'est une escalade. Est-ce que vous reprenez ce terme ou est-ce que vous dites, au fond, il l'avait déjà dit ?
Il l'a déjà dit et je dirais même qu'il a ouvert peut-être une petite fenêtre d'espoir parce qu'il n'a pas décrété la mobilisation générale.
Et le général, vous êtes bien optimiste.
Un peu, mais il s'adresse à New York. Tous les chefs d'État sont ensemble à New York, donc ils vont tout de suite se parler de ce qui vient d'être dit. Et ça semble être même une réplique à ce que disait Emmanuel Macron.
C'est ça que j'allais vous poser comme question. Emmanuel Macron a fait son exercice favori hier, finalement, puisqu'il a parlé, il a fait la leçon. Il a parlé, et tant pis peut-être si ses paroles aujourd'hui contredisent ce qu'il disait hier, il a parlé quitte à ce que ce soit dans le vide. C'est ce qu'il a fait hier. Bon. Mais est-ce que ce discours-là, par exemple, a pu influencer la réponse de Poutine ce matin? Elle l'a influencé peut-être pas de la manière dont aurait imaginé ou aurait souhaité le président Macron.
Je pense que l'Élysée, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont plus aucune illusion sur Vladimir Poutine, qu'il ne va pas entendre raison, sauf s'il y est contraint. Donc ils n'ont pas vraiment imaginé que le discours de Emmanuel Macron allait tout à coup faire réfléchir Vladimir Poutine et lui faire changer.
Donc ça ne sert à rien ce qu'a dit Emmanuel Macron hier.
Non, ça a servi.
Est-ce que la voix française porte? C'est aussi une des questions qu'on pourra se poser. Est-ce que la voix française porte à l'international? Ou est-ce que les gens qui étaient là écoutaient Emmanuel Macron en disant bon, qu'il s'occupe de ses banlieues, qu'il rétablisse ses comptes publics et plutôt que nous donner la leçon?
Oh, je pense que le Ghana et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ont aucune espèce d'idée de ce qui se passe en France. Mais je pense par contre que ce que disait Emmanuel Macron représentait, je ne sais pas, une soixantaine d'États au moins. Et il est le dernier occidental à parler à Vladimir Poutine de manière régulière et appuyée et plus ou moins au nom des autres. Donc ça a une certaine importance qu'il a avancé. Mais voilà que Vladimir Poutine, il dit que tout ce qui arrive à la Russie est la faute aux Occidentaux. Donc il se parle, mais il y a zéro amour et zéro illusion.
Oui, ça, zéro amour, tour de table.
Non, mais ce qui est de plus en plus évident, c'est que le sort de Vladimir Poutine, le pouvoir de Vladimir Poutine, maintenant dépend essentiellement de la guerre en Ukraine. Donc, comme il est décidé par tous les moyens à garder son pouvoir, il déploiera tous les moyens pour ne pas perdre cette guerre. Pas pour la gagner, parce que je pense qu'elle est ingagnable, il ne pourra pas conquérir toute l'Ukraine. Ensuite, vous avez soulevé le problème du discours d'Emmanuel Macron.
On écoutera tout à l'heure.
Moi, je ne crois pas qu'il soit inutile quand même de dire les choses et de nommer les choses. Oui, Vladimir Poutine et la Russie contemporaine représentent le néo-impérialisme. Oui, Vladimir Poutine et la Russie contemporaine représentent le néocolonialisme. Il faut le dire. C'était déjà le cas en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Personne n'a rien dit. On a fait la Coupe du Monde après en Russie comme si de rien n'était. On a laissé Poutine pousser ses pions de plus en plus. Maintenant, on nomme les choses. C'est un peu tard. Moi, je suis moins optimiste que vous parce que je pense que tout peut arriver. Parce que comme Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre, il peut même se passer des choses dramatiques pour Vladimir Poutine lui-même, parce que la mobilisation partielle, déjà, les Russes voient cette guerre d'un mauvais œil, parce que les cadavres commencent à rentrer, les désertions, vous avez vu que...
5 937.
Voilà, maintenant, morts, ils ont durci officiels. Les peines pour les déserteurs, ça veut dire que ça devient un phénomène massif. Et là, les gens qu'on va envoyer au casse-pipe, après les avoir, bon, ils disent qu'ils ont une expérience militaire, on va les former pendant quelques jours... Bon, ça va encore donner des pertes considérables et ça va encore aggraver l'impopularité de cette guerre. Donc là, on est à un moment de bascule.
Voilà. Laurent Geoffrin.
Il faut comprendre sur le discours de Poutine que les prémices du raisonnement sont toutes fausses. C'est fondé sur des mensonges. Ça. C'est-à-dire que quand il dit le peuple russe est menacé, non, le peuple russe n'est pas menacé, c'est l'armée russe en Ukraine qui est menacée, c'est pas le peuple russe. Deuxièmement, il dit... Les Occidentaux veulent nous détruire. Pas du tout. Les Occidentaux veulent sauver l'Ukraine. C'est un objectif limité. Et là, quand il parle de destruction, c'est qu'il reproche aux démocraties, un, de voler au secours des autres démocraties, deux, d'avoir écouté d'une oreille favorable la volonté des peuples qui étaient auparavant sous la domination russe de ne plus l'être. C'est ça le crime commis par l'Occident. Ce n'est pas une volonté d'encercler l'Union soviétique ou de faire tomber son régime ou de modifier sa société ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'est simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc tout ça est faux. Et ça, c'est le produit. Ces mensonges-là sont le produit du mensonge initial consistant à dire ce sera une promenade militaire. Quand il a déclenché l'opération, il n'a même pas dit que c'était une guerre. Il a dit une opération militaire spéciale. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très limité et très rapide. Comme ça fait maintenant 9 mois que ça dure et qu'il perd des points de manière considérable, il se retrouve dans une situation
On connaît ces phénomènes et ce que disait Eric est juste, il ne peut pas se permettre de perdre la guerre à titre personnel, c'est-à-dire que son pouvoir est lié à la guerre. Donc c'est ça qui tend,
substantiellement.
Voilà, qui tend et qui peut être compliqué. Dominique Jamais.
Écoutez, nous sommes en train d'assister à une application nouvelle d'un vieux principe qu'on avait oublié. On sait très bien quand commence une guerre, on ne sait jamais où cela mène. Et ce qui se passe en ce moment me fait penser tout naturellement à ce qui s'est passé lors de la guerre de 14. Quand le 29 juin 1914, l'archiduc héritier d'Autriche a été assassiné par un Serbe, personne n'imaginait qu'un mois et demi plus tard, la Russie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Autriche seraient en guerre. Et là, on est bien au-delà, évidemment, de ce que l'on a pu imaginer le 24 février dernier, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Et je voudrais quand même attirer notre attention à tous sur l'erreur psychologique forte qui a été commise la semaine dernière, il y a quelques jours, par l'ensemble des médias occidentaux. C'était fini. On s'est réjoui. L'Ukraine avait repris l'offensive. Elle allait gagner la guerre. Et le président Zelensky, dans l'euphorie de sa victoire, a prétendu non seulement revenir aux positions de départ, mais reconquérir le Donbass et annexer la Crimée. C'est-à-dire qu'il annonçait sa volonté de poursuivre la guerre jusqu'à des objectifs qui n'étaient pas les siens au début. Et rappelez-vous, la situation le 24 février, l'Occident tout entier n'avait pas encore armé massivement l'Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation n'a cessé de s'envenimer. Les partenaires de ce conflit n'ont cessé de s'accroître en nombre et d'augmenter leur aide. Et effectivement, on est confronté au fait qu'on pouvait imaginer qu'il est difficile à Poutine et à la Russie d'accepter, après l'agression, la défaite, la perte éventuelle de territoire russe et l'extension du conflit sur le territoire russe, ce dont il est question à l'heure actuelle.
Avec l'aide évidemment des Américains qui aident sans doute les Ukrainiens, notamment pour dire...
Nous sommes en guerre, comme dit Macron. Exactement. Nous sommes co-belligérants. Ce n'était pas prévu.
Ce qui est vrai, c'est que pendant les 20 dernières années, on était habitués plutôt à des conflits asymétriques, notamment à la question du terrorisme. Et là, on retrouve des conflits en fait assez anciens avec des armées contre armées. Et cette question nucléaire est absolument vertigineuse. Parce que si Poutine gagne cette guerre grâce à la menace nucléaire, ça donnera finalement un signal aux autres pays, toutes les autres dictatures, que si vous avez le nucléaire, vous pouvez vous en sortir. Donc ça peut conduire à la prolifération nucléaire parce que tous les pays, les régimes autoritaires voudront avoir cette arme parce qu'elle permet en effet d'échapper à l'ensemble des pays occidentaux qui se lient contre vous. Donc c'est assez...
Je pense à ceux qui nous écoutent. Je pense à ceux qui nous écoutent. Je pense à ceux qui nous écoutent qui sont inquiets, sans doute, qui ne sont pas peut-être au fait de la diplomatie comme vous pouvez l'être et qui se disent comment on s'en sort ?
Nous, on risque
quelle de solution ? Et on a le sentiment que ces solutions n'existent pas, sauf une qui serait de laisser tomber l'Ukraine.
Quelles seraient les conditions pour que le conflit cesse ? Il faudrait soit une victoire totale d'un des deux belligérants, soit l'épuisement d'un des belligérants, ou l'épuisement des deux. Mais là, on est très très loin
bien
de
sûr.
Ça, puisque ça se radicalise dans un camp comme dans l'autre. Là, déjà, la négociation était une option qui était très problématique. Là, on ne voit pas ce qu'on peut négocier.
Mais donc, je vous pose cette question et je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent « quid de demain ?»
Écoute, moi, je pense que ça peut être une guerre interminable. C'est-à-dire que l'arme nucléaire, il l'a déjà agitée, Vladimir Poutine, tout simplement parce que c'est son arme principale. Là, il refait le coup, l'Occident nous agresse.
Oui, mais on va écouter Emmanuel Macron hier.
Mais que va-t-il se passer ? Parce qu'en fait, là, il va y avoir des référendums. Des territoires vont devenir russes. Et si ces territoires russes sont attaqués, c'est Vladimir Poutine.
Dominique, jamais.
J'emploierai la bombe nucléaire. Donc que va-t-il se passer quand ces territoires seront fictivement devenus russes ?
Dominique, jamais.
Est-ce que l'Ukraine va cesser de les attaquer ou pas ?
Écoutez, jusque aujourd'hui, l'Occident est co-belligérant, sans faire vraiment la guerre, il l'a fait quand même. Et ce qu'il y a eu de caractéristique dans la guerre jusqu'à présent, dans la guerre d'Ukraine, c'est que, il faut bien le dire clairement, nous étions au spectacle. Nous étions au spectacle d'une guerre qui met aux prises les Ukrainiens et les Russes, et à laquelle nous participons sans qu'aucun petit gars du contingent, naturellement, soit envoyé là-bas, puisque le service a été aboli, et sans même que l'armée professionnelle soit dans le coup. Et là, ce qui risque de se passer, et qui en effet va alimenter l'inquiétude dans les jours qui viennent à la suite de la déclaration de Poutine, c'est qu'on se rend compte que l'engrenage est lancé et qu'au lieu d'être simplement spectateur d'une guerre, ce qui permet d'ailleurs les postures les plus nobles aux gens qui disent que ce que fait Poutine est abominable, ce qui est vrai, mais sans envisager une seconde d'aller eux-mêmes au casse-pipe. Dans les guerres précédentes, dans les conflits précédents, quand il y avait une menace internationale, quand un conflit naissait, les gens savaient, voyez en 14, voyez en 39, que si la guerre s'élargissait, eh bien, c'est eux-mêmes qui iraient. Hein ? Et à l'heure actuelle, pour la première fois, on va sans doute avoir l'impression en France que tôt ou tard, nous allons être entraînés, pris dans l'engrenage.
C'est pas tout bon, à fait on la va écouter.
Fois, on va la première fois depuis longtemps, je veux dire.
Oui, mais enfin, ce n'est pas la première fois que la Russie et l'Occident s'affrontent via un pays tiers. Il n'y a pas d'affrontement direct.
Non, mais ce que je veux dire,
tout le XXe siècle, la guerre froide, ça a été ça.
Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que jusqu'à la guerre d'Algérie, quand il y a eu un conflit, la France y a été mêlée.
Oui.
Hein? Non, mais... Et là, nous avions jusqu'à présent un conflit où nous étions partie prenante sans d'aucune manière être engagés. Les gens s'en foutaient d'une certaine manière. Même si, oui, d'une certaine manière.
Aucun...
Si, quand on sait qu'on va partir pour le casse-pipe, comme vous disiez, la semaine prochaine, on n'a pas la même attitude que lorsque une armée professionnelle risque d'être engagée et qu'on envoie des obus et des missiles et des canons aux belligérants.
Aucun de nous n'est né avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, je ne crois pas qu'il y ait eu une menace.
Alors, on parle... Contingent était envoyé.
Bien sûr. Mais il n'y a pas un conflit généralisé, une menace d'un conflit généralisé comme nous le vivons en ce moment sur une aussi longue période. On parle toujours de l'affaire de.
Mais est-ce qu'il y a vraiment une menace de conflit généralisé?
C'est la question que je vous pose.
On n'a pas d'alliance contraignante avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc il n'y a pas de traité qui nous oblige à intervenir. On le fait parce qu'on pense que c'est notre intérêt.
Écoutez, on va écouter Emmanuel Macron. Alors, le ton d'Emmanuel Macron a surpris hier. Il y a deux manières de le voir. Soit comme. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une sorte, il faut dire les choses, et peut-être certains ont fait le parallèle avec Dominique de Villepin à l'ONU, soit au contraire de dire, ce président, la voix internationale française, elle porte peu, aujourd'hui notre politique étrangère, elle est quand même mise à mal, il suffit de voir comment ce qui s'est passé au Mali, on a été chassés quoi, du Mali, disons.
C'était l'as compatible.
Voilà, comment ?
C'était l'as compatible, les deux, il faut nommer les choses, mais bon. La voix
et
de la France porte
et que,
peu.
Voilà, et que notre voix porte peu, et que la manière dont s'est exprimé Emmanuel Macron, dans un ton où peut-être on peut voir qu'il... On peut imaginer en tout cas ou interpréter qu'il se pose en donneur de leçons. Il est possible que cela n'ait pas forcément arrangé les choses ou en tout cas qu'il ne soit pas forcément écouté. Je vous propose de l'écouter précisément.
Je sais aussi que certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix.
Ce qui est ennuyeux chez Emmanuel Macron, et c'est souvent la même chose, ce qu'il dit, on peut adhérer à 100% à ce qu'il vient de dire. Mais tu as envie de dire... Il n'est même pas capable de régler les problèmes en France depuis 6 ans. Et non, mais c'est quand même...
On pourrait dire ça de tous les chefs d'État du monde.
Non, ça s'entend. C'est-à-dire qu'il fait son exercice favori, parler. Mais dans l'action, il n'y a plus personne. Pardonnez-moi de le dire d'une manière un peu caricaturale.
Non, mais l'action, mais, là, elle est diplomatique.
Les problèmes dans les banlieues en France ne sont même pas réglés depuis qu'il est... C'est tout ce que je souligne.
Oui. Aux États-Unis non plus.
On va dire qu'il n'y a plus de voie diplomatique de la France à l'étranger parce qu'il y a des problèmes internes. Dans ce cas-là, on peut disparaître la France de toutes les, de toute la diplomatie internationale tant qu'on n'est pas un pays...
Quelle est l'efficacité de ce qu'il a dit?
Il y a quand même
un point important.
Moins que les autres pays
une
du
question.
Même genre.
Mais il fallait que ce soit dit quand même.
Non, mais dans ce discours, il y a un point important. C'est que la toute petite marge de manœuvre qu'on a, c'est un isolement croissant de la Russie. Et donc, il en appelle aux pays qui soient son neutre, soit les soutient. Il leur dit, il faut prendre vos responsabilités. Pour l'instant, la Russie s'en tire pas trop mal, parce qu'effectivement, tout l'Occident est contre, mais le reste du monde est très, très complaisant envers la Russie. Oui. Donc, il joue cette carte. Il le fait avec éloquence. En effet, s'il est toujours ramené à son bilan intérieur, oui, il faut qu'il reste à Paris et qu'il gère les problèmes. Enfin, on ne peut pas non plus dire la voix de la France ne porte plus et puis dire en plus au président de se taire. Il faut quand même qu'on joue un peu notre carte de puissance, certes un peu dégradée, mais nous restons une puissance quand même.
Quand de Villepin, à l'ONU, a annoncé que la France ne prendrait pas part à la guerre d'Irak, C'était clair, c'était net, c'était simple, et ça a eu l'effet que l'on sait. Là, effectivement, on peut dire beau discours, rappel de beaux principes, appel à la raison de la Russie, appel à l'isolement croissant de la Russie, ce qui n'est peut-être pas très très intelligent, même si c'est brillant. Mais quel est l'effet de ce que vient de dire Emmanuel Macron sur la Chine, sur l'Inde, sur l'Afrique, sur le Brésil et sur la Russie? Nul.
Mais il vise les petits pays.
Oui, il a pas, le oui. Pakistan, je pense. Hein.
Le Mali, non. Peut-être
tous les pays, qui, le Sénégal, d'autres, qui n'ont pas vraiment voté la condamnation, qui se sont abstenus. Et eux, il peut les secouer.
Bon, Brejnev, c'est quelqu'un qui me rappelle cela, qui me dit, c'est le discours de Brejnev que celui de Poutine tout à l'heure, c'est-à-dire l'Occident veut détruire notre pays.
Il a dit, oui, c'est un truc soviétique voilà. Récurrent. Même voilà. Gorbatchev, au début l'Occident de sa présidence, utilisait ce mot-là.
On appelait ça la guerre froide avec le chantage nucléaire.
Oui.
Mais de toute façon, en plus de mobiliser les soldats, il faut mobiliser les esprits, il faut mobiliser le patriotisme. Donc, c'est un vieux discours. Hein, la Russie contre l'Occident, ça date du 19e siècle. Il y a toujours eu ces deux courants en Russie, le courant pro-occidental et anti-occidental.
Et de ce point de vue, on devrait se demander si l'effet de certains discours ou de certaines attitudes de l'Occident est de nature à susciter la réponse du patriotisme
là,
russe,
on entre dans le dur du débat.
Ou au contraire à faire reculer le gouvernement et le peuple.
Là, on entre dans le dur du débat, je trouve.
La mobilisation en Russie est un signe de faiblesse de Moscou. C'est l'ambassadrice américaine en Ukraine qui vient de déclarer cela. Deuxième passage d'Emmanuel Macron hier à l'ONU et il parle des sanctions.
Qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction? Lequel d'entre vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant, lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses? Qui peut le soutenir? Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose? Personne.
Oh, mais ça arrive tous les jours, des pays qui sont attaqués par leurs voisins, et la communauté internationale ne dit rien.
Comme en Arménie, par exemple. C'est ce que j'allais vous dire, bien évidemment.
Comme en Arménie avec l'Azerbaïdjan.
Bien évidemment.
Il y a deux conclusions possibles à cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 8 mois. C'est que la Russie gagne la guerre, c'est épouvantable. C'est que la Russie perd la guerre, c'est épouvantable.
Je ne vois pas pourquoi c'est épouvantable.
Ah, vous voyez pas pourquoi la disparition de la Russie crée un petit problème.
Elle ne va pas disparaître, voyons.
Elle pourrait disparaître.
Mais vous croyez vraiment que les armées ukrainiennes vont aller jusqu'à Moscou?
Non, cher Laurent Geoffrin.
Mais vous croyez quoi, alors?
Non,
cher Laurent. Ils vont perdre la guerre en Ukraine, ils ne vont pas perdre la guerre sur le territoire russe.
Si vous voulez savoir ce que je crois, laissez-moi le dire.
Oui, d'accord.
Merci. Donc, si la Russie perd effectivement la guerre, l'équilibre du monde est légèrement changé. Peut-être que l'alliance d'ailleurs entre la Russie et la Chine est quelque chose qui nous menace dans l'avenir.
Ce sont des
choses auxquelles il faut toucher avec précaution, car c'est de la dynamite. Et lorsque, par exemple, la semaine dernière, enivré, je vous donne un exemple, lorsque, par exemple, la semaine dernière, enivré par la victoire tactique remportée par l'armée ukrainienne, Zelensky a dit qu'il fallait que l'Ukraine récupère la Crimée, qui n'a jamais été ukrainienne, sauf depuis 1991, j'ai considéré qu'on n'allait pas vers quelque chose.
53.
Elle était, oui, faisait partie de l'Ukraine avant l'Union soviétique.
53.
Avant la Russie.
Je vais remercier.
L'Union soviétique.
Je vais remercier Harold Diman.
Mais non.
De ses précieux commentaires. Alors, pour tout vous dire, on a tout changé, évidemment, notre programme de l'émission. Fabien Verdier est là. C'est le maire d'hiver gauche de Châteaudun. Il devait s'exprimer sur la difficulté des villes moyennes et notamment parfois la sécurité qui existe dans ces villes moyennes et puis le développement de ces villes moyennes. Il est venu de Châteaudun, je ne vais pas lui dire de repartir pour sa ville, mais bien sûr, nous allons continuer de parler de la situation internationale. À tout de suite. Fabien Verdier est là, c'est le maire d'hiver gauche de Châteaudun. Il a écrit une tribune, les 233 villes sous préfecture constituent la colonne vertébrale de la France et vous voulez défendre ces petites villes, villes moyennes. Villes moyennes, c'est jusqu'à 50 000 habitants, sans l'agglo, bien évidemment. Alors, je ne vous ai pas demandé de repartir pour Châteaudun, ce qui eût été quand même extrêmement indélicat et impoli. Mais c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, elle est davantage sur la Russie que sur les villes moyennes. Néanmoins, on parlera avec vous de cette défense que vous avez imaginée. Il est 9h32, Audrey Berthaud.
L'épidémie de Covid repart à la hausse. On va voir ensemble les derniers chiffres de Santé publique France. Regardez, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué hier soir la condamnation par l'Occident du projet de référendum d'annexion de territoires occupés par la Russie. Notre position ne change pas en fonction de ce bruit ou n'importe quelle autre annonce, a ajouté le chef de l'État, appelant à maintenir la pression sur Moscou. Enfin, 230 cétacés échoués en Australie. Ils ont été retrouvés sur la côte est de Tasmanie, près du port de Macquarie. Selon des responsables officiels, seulement la moitié de ces cétacés semblaient être encore en vie.
Écoutons Emmanuel Macron une dernière fois. Il faut que l'ONU agisse.
Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations Unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la Charte et à notre bien le plus précieux, la paix.
La situation est grave, bien sûr, mais c'est un vœu pieux.
Mais que faire d'autre ? L'alternative, c'est un engagement direct. Personne ne le souhaite. Vous dites que la situation est dramatique. Imaginez si on disait aujourd'hui que l'armée française va intervenir mais sur les territoires ukrainiens.
J'appelle à tous de demander à la Russie qu'elle arrête la guerre.
La seule carte.
Qu'ils disent d'autres.
Mais je
ne vais pas l'encourager.
Mais c'est pas ça que je vous dis.
Non,
mais
oui,
je vous dis. J'entends. Vous seriez à sa place. Vous diriez sans doute la même chose. Mais comprenez que de l'autre côté de l'écran, on se dit ça ne sert à rien.
Oui,
c'est ce qu'on dit. Ça ne sert à rien. Moi, je crois qu'il n'est pas inutile de rallier de nouveaux pays au front anti-Poutine. Voilà, c'est pas grand-chose, parce qu'effectivement, c'est pas des grands pays qui vont tomber dans notre escarcelle, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. On va pas déclencher une guerre traditionnelle, on va pas déclencher une guerre nucléaire, on va pas provoquer un coup d'État. Qu'est-ce que vous voulez jouer
comme... Voilà.
En tout cas, il faut essayer. Évidemment qu'il faut essayer ce que fait le...
Une question très simple, et je serai très bref. Quelle chance y a-t-il que ce discours ait la moindre influence sur la suite des événements ?
Ça, c'est sûr. Et se taire, ça n'aurait pas...
C'est quand même une question qu'on peut poser.
Il est normal que M. Macron préfère, au nom de la France, prendre la parole.
Oui.
Plutôt que de se taire, il affiche des principes.
S'il ne prenait pas la parole, on dirait que la France est effacée, qu'elle n'est rien, qu'elle est en recul.
Il affiche des principes, il défend des valeurs. C'est très bien. Quelle influence cela peut avoir ?
Et quelle influence a eu que la France n'aille pas en Irak ?
Comment ?
Quelle influence ça a eu que la France n'aille pas en Irak ? Rien non plus. Dans ce cas-là, on peut dire que le discours de Mitterrand a été complètement inutile.
N'allez pas si vite. Au contraire, la France en a recueilli une popularité durable dans tous les pays arabes.
Ah, c'est vrai que ça nous a empêché d'être attaqués ensuite par les terroristes ?
Non, mais quand vous disiez que l'attitude de Villepin de Chirac n'avait eu aucun effet, c'est faux.
Bon, Monsieur Verdier, je ne sais pas si vous avez précisément un avis sur ce sujet.
En tout cas, il ne peut pas faire autre chose. Et la tribune de l'ONU à New York est l'endroit indiqué. Hein. Mm-hmm. Et comme dit Eric Noul aussi, il y a 2-3 pays qui basculent ou qui étaient neutres et qui basculent un petit peu dans cette volonté commune. Ça serait déjà positif.
Bon, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus ce matin sur ce sujet qui va évidemment mobiliser toute la journée tous les commentateurs, tous les observateurs et tous les hommes politiques de France. Je voudrais qu'on écoute Pape Ndiaye, parce qu'en France, il est difficile de parler de questions ethno-raciales de manière nuancée, a-t-il dit. Il est à Washington, Pape Ndiaye, lors d'une allocution dans une université historiquement noire de Washington. Que dites-vous, Laurent ?
C'est une litote.
Vous trouvez qu'en France, il est difficile de parler des questions ethno-raciales de manière nuancée ?
Ben, j'entends le discours public, oui. J'entends souvent beaucoup de choses péremptoires.
face à des étudiants afro-américains.
Allez aux États-Unis, vous verrez ce que c'est qu'un discours manichéen.
Face à des étudiants afro-américains, le ministre en visite aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU a décrit les différences entre la France et les États-Unis en matière de lutte contre le racisme. L'État français est officiellement indifférent à la couleur de peau, a-t-il dit. On rappelle qu'il est spécialiste des minorités américaines, M. Ndiaye, qui est lui-même de père sénégalais et de mère française. Alors écoutons-le et puis on va pouvoir commenter ce qu'il a dit.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
Quoi, les organisations d'extrême droite? Et qui?
C'est toujours les mêmes, elles sont connues.
Je ne sais pas, je
pose la question. C'est les partis d'extrême droite, vous les connaissez comme moi.
Mais monsieur Ndiaye est ministre de l'éducation nationale ou du wokisme? Je n'ai pas bien compris là. Parce que...
Non, mais vous n'avez pas compris, excusez-moi. Mais là, il répond au wokiste, justement. Il dit, vous savez, en France, le concept de race, on n'aime pas trop
non,
ça.
Non, mais
que les wokistes.
Ce que j'entends, moi, c'est qu'il semble regretter qu'en France, justement, on ne parle pas assez de race, contrairement aux États-Unis, on en parle tout le temps. Excusez-moi, mais moi, je préfère justement l'aveuglement à la race qui existe en France que l'omniprésence de la race.
Il n'a pas condamné.
Il dit que c'est encore un sujet très sensible à cause de l'extrême droite en France. Il semble dire que finalement on n'en parle pas assez et qu'il faudrait davantage s'inspirer des États-Unis, des études de la race. On le sait qu'il pense ça au fond.
Je reprends le raisonnement prodien.
Non, c'est parce que vous l'avez accusé d'être woke, mais il est peut-être
pas. Que la rentrée scolaire s'est bien passée.
Je pense que
le niveau de l'enseignement est satisfaisant.
Voilà, je pense qu'au fond, c'est ce que dit Eric Nolot est juste. Je me fiche de ce que dit Monsieur Ndiaye en Virginie. Il ferait mieux d'être à Paris.
Mais c'est vous qui l'avez mis à la.
Bah oui, mais enfin. On l'a bien obligé de commenter les égarements de M.
Ndiaye. Vous le mettez à l'écran pour dire « je me fiche de ce qu'il dit », mais ne le mettez pas à l'écran.
Mais non, ça, c'est pas bien.
Mais pourquoi ?
Je souligne qu'il est à Washington alors qu'il n'a rien à y faire et qu'il ferait mieux de travailler à Paris et de s'occuper de ses élèves et de ses classes qui sont en grande difficulté. Voilà ce que je souligne.
Il faudrait que des profs formés en 3 jours pour pallier les inconséquences de l'éducation nationale. Faut pas
et que les réflexions de M. Ndiaye sur le wokisme et sur la société... ou sur la société multiculturelle, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il apprenne.
Qui veut que la France devienne l'enfer racial américain?
Il est plus que singulier, il est extravagant que M. Ndiaye, ministre français d'origine sénégalaise de l'éducation nationale, aille dire aux États-Unis que la France est raciste. Mais devant quel public parle-t-il?
Si.
Il est très difficile de parler.
Il dit que nous sommes en retard sur les États-Unis.
Il dit qu'il y avait des partis d'extrême droite.
Oui, c'est ça.
Et il va débarquer des organisations.
Et donc, il va dire aux États-Unis que le multiculturalisme, le racisme, est plus menaçant. Et le multiculturalisme plus menacé en France qu'aux États-Unis et devant une université noire. C'est extravagant.
Alors, je rappelle qu'il a étudié dans une université en Virginie et qu'il a confié parfois être considéré comme trop américain en France, un peu trop woke. A-t-il dit, et il avait dénoncé les traces d'anti-américanisme souvent bien évidentes dans le discours politique français.
Pascal, au début, j'ai dit il faut faire crédit à M. Ndiaye parce qu'il avait été rendre hommage à Samuel Paty. J'ai trouvé que ça commençait bien. Malheureusement, ça y est, on est dans la dérive où M. Ndiaye n'est pas là pour résoudre les problèmes énormes de l'éducation nationale, mais pour promouvoir le wokisme à l'américaine. Voilà. Le wokisme à l'américaine, c'est un cauchemar. La guerre des races aux États-Unis, c'est un cauchemar. Qui veut l'importer en France?
C'est pas du tout nuancé. C'est
qui
pas
veut l'importer?
Il est difficile. Je répète cette phrase qui me paraît folle.
On n'a pas entendu la même chose.
Il est difficile
bien voir
de parler.
En entier.
Vous voulez qu'on le... Je répète ce qu'il a dit, cette phrase qui me paraît folle pour un ministre de l'Éducation sur le territoire américain. Il est difficile de parler des questions ethno-raciales de manière nuancée. En France, voilà ce qu'il dit. Est-ce que c'est sa place de dire ça aux États-Unis? Qui s'occupe de son ministère?
C'est déjà discutable. Le dire aux États-Unis, c'est condamnable.
Franchement. Bon, vous voulez qu'on parle de M. Bayou et de l'actualité française?
C'est vous qui décidez, on n'est pas...
c'est pas un pouvoir autoritaire ici.
Prenez vos responsabilités.
Vous savez que... Alors, ça va vite quand même, parce que... Alors là, je suis le premier surpris. Monsieur Bayou s'est donc mis en retrait de ses fonctions secrétaire national d'Europe Écologie Le Vert. Il a été mis en retrait de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale après des soupçons de violence sur son ex-compagne. Je vous propose d'écouter Yannick Jadot, hier soir, qui était dans l'émission C'est dans l'air.
Il y a eu depuis plusieurs mois, Julien Bayou a informé les personnes de cette alerte qui avait été faite auprès de notre cellule contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, je pense que l'ex-compagne de Julien Bayou a alerté cette cellule, d'ailleurs, après avoir discuté avec Sandrine Rousseau. Donc on a depuis 2016 une cellule pour traiter de ces questions-là, pour être à l'écoute, pour entendre, potentiellement prendre des sanctions politiques. Mais évidemment, ce n'est pas à cette cellule de se substituer à la justice. Et en l'occurrence, il n'y a pas de dépôt de plainte.
Mais je trouve absolument hallucinant que Julien Bayou se mette en retrait après des allégations sans preuve, sans processus de justice, sur une enquête journalistique, a dit Sandrine Rousseau devant les médias, pour un problème qui semble effectivement des difficultés conjugales qui ne sont même pas de la violence physique, mais de la violence psychologique.
C'est important, la violence psychologique.
D'accord, hein. Mais il n'y a pas eu de dépôt de plainte, il n'y a même pas eu de main courante, qu'on sache en tout cas. Et sur des simples allégations, voilà, une mise en retrait. Moi, je trouve
ce que vous dites, Eugénie.
Je trouve qu'on est dans une logique d'épuration.
Ça va vite. J'ai écouté Sandrine Rousseau qui dit, moi j'ai reçu la compagne de Julien Bayou, qui était dans un état psychologique extrêmement délabré, qui a fait une tentative de suicide ensuite.
Elle n'avait pas dit ça en public.
Elle l'a dit. Et ça date de plusieurs mois, donc ça ne va pas vite.
Mais ça n'était pas, quand je dis ça va vite, c'est parce que cette information n'était pas publique. D'accord. Elle l'est depuis mardi soir et il a démissionné.
Ça ne va pas vite dans le fonctionnement interne des Verts, surtout que Sandrine Rousseau ajoute.
On n'en sait rien.
Et il y a plusieurs. Non, mais c'est ça. Moi, Sandrine Rousseau, je suis très attentif à ses paroles, c'est ma boussole. C'est parfois ma girouette. Elle dit, et il y a d'autres femmes qui aurait porté plainte aussi. Mmh. Moi, je dis, ça va pas vite. Mmh. Si ça avait été quelqu'un de droite et que Sandrine Rousseau ait eu connaissance de ces faits, elle aurait dit démission immédiate, etc. Ils ont mis des mois et des mois. Ils ont laissé Bayou dans la nature. Peut-être que il a agressé. Moi, les agressions psychologiques, je les prends au sérieux. Peut-être qu'il a aussi agressé psychologiquement d'autres personnes. Je trouve que ça va très lentement et qu'en effet, ça se substitue à la justice courante. Il y a maintenant une justice de parti, une justice de secte. Qui, au sein des Verts, comme de la France Insoumise, se substitue à la justice courante.
Vous faisiez référence à ce qu'avait dit Sandrine Rousseau. J'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Julien Bayou. Je pense que les comportements sont de nature à briser la santé morale des femmes. C'est ce qu'elle avait dit sur le plateau de C'est à vous, je crois, avec Anne-Elisabeth Lemoine. Et Clémentine Autain lui avait répondu hier. Je vous propose d'écouter Clémentine Autain.
Quand j'entends Sandrine Rousseau hier, par exemple, expliquer que la victime, qu'elle a reçu, en tout cas l'ex-compagne de Julien Bayou, qu'elle a reçu elle-même, et qu'elle explique que cette femme a fait une tentative de suicide, je ne sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide.
Et Sandrine Rousseau a répondu à Clémentine Autain après cette intervention. Elle a dit, si vous pensez que le problème vient de telle ou telle parole féministe plutôt que des personnes qui exercent les violences et du système qui s'en accommode, vous faites partie du problème, a dit...
C'est le discours typique des woke américains. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec les antiracistes radicaux, c'est que vous-même, vous êtes raciste. Et là, si vous n'êtes pas d'accord avec le féminisme radical de Sandrine Rousseau, c'est que vous n'êtes pas assez déconstruit, pas assez féministe. Et c'est un raisonnement circulaire auquel on ne peut pas échapper. C'est le propre de l'idéologie et c'est absolument terrifiant. Je suis désolée, mais Sandrine Rousseau est une procureure et je n'ai pas envie que ce soit elle qui indexe notre indignation morale dans
la société. Moi, ce que je constate, c'est que la parole des femmes doit être
l'arroseur. Voilà. C'est l'arroseur arrosé et la NUPES ou les écologistes sont victimes des procédures et des processus qu'ils ont mis en marche.
Le parti se renforce en s'épurant.
Et donc, on a assisté depuis quelque temps, très légitimement, à l'engagement d'une lutte, d'un conflit généralisé, aussi généralisé que celui dont nous sommes menacés sur le plan militaire, etc., on a assisté à la naissance d'une lutte contre le viol, contre le harcèlement, contre les comportements machistes, etc., etc. Très bien, bravo.
Mais vous semblez le dire avec un peu d'ironie.
voilà que le domaine de cette lutte s'étend et qu'il concerne les scènes de ménage, l'intimité des couples, même des femmes qui ne portent pas plainte, qui n'ont pas porté plainte, oui. qui souhaitent que le drame qu'elles ont vécu ou les ennuis qu'elles ont vécu oui. ne soient pas portés devant la justice. Non seulement c'est porté devant la justice, c'est non seulement la justice est dessaisie, mais c'est porté devant un tribunal populaire, devant un tribunal de parti. Cela a des conséquences. Et M. Quatennens, qui était le numéro 2 très prometteur de la NUPES, est disqualifié.
Il y a une main courante.
M. Bayou, qui était le numéro 1 bis de l'écologie.
De développer. Il y a une main courante de déposer.
Oui, oui, non, mais d'accord. Mais il y a un détournement.
On peut distinguer l'affaire Bayou et l'affaire
Quatennens. Il y a un détournement dans les deux cas. Il y a un détournement dans les deux cas. D'une affaire intérieure à un ménage, la justice est dessaisie.
Mais les,
et ça passe sur le terrain.
Mais les violences conjugales, c'est toujours interne au ménage. Hein.
En quoi est-ce que M. Coquerel est moins compétent en finance depuis qu'il a une affaire de harcèlement sexuel sur le dos ?
Mais l'enfer. Ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas en quoi est-il. Je ne remets pas en cause la compétence de M. Coquerel en matière financière, mais si effectivement c'est un harceleur, il n'a rien à faire à ce poste-là.
Je constate qu'il y a des partis qui ont.
Non, mais oui ou non ?
Non, attendez,
non.
Laissez-moi expliquer pourquoi je suis plus nuancé que vous. Je constate la mise en place.
C'est rare.
Je constate la mise en place et l'officialisation des tribunaux parallèles à ceux de la justice.
Non. Mais c'est une main courante. Hein. C'est lui-même qui l'a, Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir mis une gifle à son épouse.
Oui. Et d'accord. Effectivement, en 13 ans de vie commune, il a, ce qui est un grand tort, giflé une fois sa femme.
Ça ne va pas minimiser.
Vous me sidérez, Dominique Jamais.
Non.
Mais vous dites ça comme en ironie, en 13 ans. C'est comme si vous me disiez, en 13 ans, il a une seule fois tiré sur sa femme avec une carabine.
C'est pas tout à fait pareil.
Ah bon ?
Au cours d'une scène de ménage qu'ils se soient emportés et qu'effectivement ils en soient venus aux mains, oui. comme sa femme le reconnaît, ça existe dans un million de ménages, ça ne brise pas les carrières des
femmes. Dans un million de ménages, des hommes frappent sur leur femme. Mais enfin, je veux dire, mais Dominique, jamais...
Dans le mien, en tout cas. Bon.
Dans 99% des ménages, jamais un homme n'a frappé sa femme, ou 99,99. Enfin, c'est sidérant.
J'ai forcé sur le chiffre. Les scènes de ménage, ça n'existe pas.
Mais ça n'a rien à voir avec la gifle. Tout le monde a vu des enfants, tout le monde a vu ses parents, sans doute, en scène de ménage. Personne de sage n'a vu...
On casse une chaise.
Je suis de mon côté assez étonné.
L'enfer dans lequel vit la France insoumise depuis quelques jours, c'est l'enfer qu'ils ont souhaité. Oui. Voilà. Ils ont mis en place ça et maintenant ils se retrouvent jetés dans le chaudron. Oui. Il faut tout conflictualiser. Non, eh ben là, ils sont servis. J'entends. Dès qu'il y a une faute dans un ménage, un harcèlement, il faut que le type démissionne. Et quand ça s'adresse à eux, on leur renvoie la balle et là, ils se roulent
bien
par terre.
Alors justement,
comme Neymar dans la surface de réparation. Ben non, ça marche
justement.
Pas.
Justement.
Non, mais que Quatennens soit mis à pied, exclu de la politique, très bien. Moi, ce qui me dérange, c'est l'interprétation des féministes de ce geste comme finalement le symptôme de violence systémique des hommes en politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que ce qui est systémique, c'est le féminisme, justement. Puisque justement
ça commence à faire beaucoup, Eugénie. Hein,
non, mais attendez, ça commence alors, beaucoup. Déjà, vous mettez tout sur le même niveau. Tout n'est pas sur le même niveau.
Je vois Quatennens, Coquerel...
Non, mais depuis,
parce qu'ils sont intransigeants là-dessus, ils sont dans une logique de curation.
Depuis le début... Juste un mot. Depuis le début de l'affaire MeToo, ce qui est le plus frappant, c'est le nombre incroyable de faits qu'on ignorait et qui apparaissent au jour. Que ce soit un système ne me paraît pas contestable.
C'est quand on encourage un fait. Il y a une réprobation unanime de ce fait.
Avançons.
On est pas
non. Avançons, parce que hier, il y a eu conférence de presse. Ça m'intéresse beaucoup, la conférence de presse, parce que vraiment, on a
ramené. J'ai adoré.
Bon, là, écoutez, d'abord, il y avait le tweet de Mélenchon. Premier tweet, deuxième tweet. Et effectivement, hier, dans cette conférence de presse, les dirigeants de la France insoumise ont été interrogés précisément sur le tweet de Mélenchon et sa réaction. Et en fait, les dirigeants, ils sont tétanisés par Mélenchon. Ils n'osent pas dire les choses. Ils sont absolument tétanisés. Donc, vous les voyez, ces tweets, je n'ai pas besoin de les relire. Vous les connaissez depuis 2-3 jours. Voyez la réponse de Mathilde Panot, pour commencer, à la question comment vous avez réagi au tweet de Jean-Luc Mélenchon.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon.
C'est ma réponse.
Je la repose. Il y a une députée chez vous, Madame, je crois, Martin, qui a communiqué, Madame Autain, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Quelle est votre position ?
Tout le monde, rien pas que moi.
Oui, mais je sais que vous avez, en tout cas, vous réagissez beaucoup sur ces questions, c'est normal. J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté ?
Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave que nous avons pris très au sérieux, d'où le communiqué de presse de la coordination des espaces du mouvement, qui dit clairement que, en tant que mouvement féministe engagé sur des questions de lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en retrait de Adrien Quatennens était nécessaire.
C'est le Titanic sans l'orchestre.
il y a des gens.
Écoutez,
il y a des gens.
Écoutez.
Les cruautés.
On sent que ça vous fait plaisir.
Ouais. Il y a rien à changer. Hein. C'est Souchon, rame, rameur.
Écoutez, il y a des gens, des militants, et notamment les néo-féministes, qui ont déclenché une révolution dans les mœurs politiques aussi, dont elles pensaient profiter, ça leur retombe dessus.
C'est l'effet boomerang.
Aussi bête que ça.
Non, mais ce qui va arriver, c'est... Moi, je me demande... Ça va être très difficile d'être un homme de gauche, je pense. Un homme politique de gauche.
Un homme tout court, peut-être.
Un homme tout court, un homme de gauche encore plus. Voilà. Et en fait, on se demande qui va rester. On se demande qui va rester debout, en fait, dans cette espèce de jeu de qui est en train de se passer. Il va rester les purs, en fait. Mais parfois, moi, je pense que les purs, les incorruptibles,
ne pas taper sur une femme, c'est pas être pur. C'est simplement.
On a l'impression que
je ne parle pas de canard, je parle de Bayou.
On a l'impression qu'il y a une minorité, il y a une élite incroyable qui respecte les femmes.
Tous les hommes
sont très peu nombreux.
Les hommes qui se conduisent comme ça, c'est plutôt les exclure de tout du débat.
Concentrons-nous sur ce qu'on a vu, cette conférence de presse inouïe, avec la retransmission sur YouTube qui s'interrompt au moment des questions des journalistes. Moi, la seule fois que j'ai vu ça, c'est Ceaușescu en 89 au balcon. La télévision roumaine interrompt la diffusion puisque la révolution gronde. Donc le parallèle est quand même un peu fâcheux. Et ensuite, ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils n'osent pas faire la moindre réserve envers Mélenchon et Clémentine Autain qui espère que quelqu'un... Daniel Obono fait un geste, elle est sauvée, elle dit tiens, vas-y toi, et elle se fend d'une explication complètement filandreuse, inexplicable, incompréhensible.
Juste une phrase, c'est bien une révolution, à l'aune de ce qui existe actuellement, aucun des trois derniers présidents de la République n'aurait échappé à l'inquisition qui se développe actuellement.
Ah oui.
Ah oui. Si. Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy... Monsieur Hollande,
vous n'avez pas le droit de dire ça.
Mais pourquoi Comment je n'ai pas le droit de dire ça?
Mais vous n'avez pas le droit de dire
ça. Il faut
d'accord,
des faits, alors.
Donc, il manque
il faut des faits, quand même.
Il manque simplement les plaignantes, pour l'instant.
Mais enfin, vous êtes...
Je ne comprends pas.
Semblable, Dominique Jamais. Pardonnez-moi, il manque les plaignantes. Vous vous rendez compte de cette phrase qui est complètement folle?
On en reparlera.
Mais ils ont fait des choses illégales.
Je retire pour vous ce que vous avez dit.
Non, mais vous voulez dire que l'opposition aurait trouvé des choses.
Laurent Geoffrin,
je retire.
Le cours dans les milieux politico-parlementaires et journalistiques sur les façons de faire de M. Sarkozy, de M. Chirac,
je retire.
Est un bruit que vous connaissez naturellement. Vous voulez ne pas en entendre parler pour l'instant. C'est votre droit.
Je retire pour vous les phrases. Je retire.
Extra-conjugaux.
Je retire pour vous les phrases que vous avez dites, parce que, je veux dire, elles sont nulles et non avérées. Pardonnez-moi.
Non, mais là, il s'agit de violence.
Mais enfin, on parle de violence physique.
Et de violence
enfin,
morale.
Enfin, je vais être sidérant, mais bon.
On parle aussi de harcèlement sexuel.
Mais. Hein? Bon, enfin, on parle de harcèlement sexuel pour Jacques Chirac?
Non, sûrement pas. Sûrement pas.
Je préviens que je retire définitivement ce que vous avez dit pour vous.
Non, parce que
et croyez-moi,
c'est pas son genre.
Bon, je vous, si j'ose dire, voilà, vous me sidérez, Dominique Jamais. Non, mais c'est des sujets trop graves, on peut pas comme ça, me semble-t-il.
C'est bien mon avis.
Mais c'est pas un avis, on peut pas comme ça balancer. Alors moi, je vais dire Monsieur Bidule, machin, c'est trop. Me semble-t-il, c'est pas convenable.
Et à quoi est-on en train d'assister à l'heure actuelle?
Respectons, si c'est possible.
Le foyer de Monsieur Quatennens.
Non, respectons. Respectons, si c'est possible, la mémoire d'un homme qui est décédé, qui a été président de la République, revenir sur son parcours.
La vie privée des hommes publics leur appartient. J'ai déjà entendu ce discours.
Bon, écoutez vous. On va marquer une pause. Vous restez avec nous, Monsieur Verdier. Vous avez bien fait de venir. Parce que vous n'avez...
Toujours. Merci de l'invitation.
C'est une émission assez curieuse. On invite des gens, ils n'ont pas le droit de parler.
Donc ça, c'est un concept. C'est un concept que je tiens là, si vous voulez. À tout de suite. Il est 10h02, Audrey Berthaud.
Respecter les femmes.
Eh ben oui. Audrey, mais attendez.
Ça ne veut pas dire que leur carrière sera forcément...
Croyez où, là? On n'est pas au bistrot. On est à l'antenne. Oui. Parce que la discussion, évidemment, continue. On n'est pas... Vous n'êtes pas chez vous, là. Vous êtes sur CNews. Vous êtes un peu chez vous sur CNews, finalement, Laurent Geoffroy. Audrey Berthaud.
Ce que vous me dites.
Ça change complètement l'équipe.
La Russie va mobiliser 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine, annonce du ministre de la Défense. Il a prévenu que cela ne représentait qu'une partie infime du nombre de personnes mobilisables dans le pays. Selon lui, la Russie dispose d'un potentiel de mobilisation de quelque 25 millions de personnes. Le refus d'une demande d'asile doit être synonyme d'expulsion automatique. C'est ce que souhaite inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi sécurité. Aujourd'hui en France, les demandeurs d'asile peuvent utiliser jusqu'à 12 procédures de recours après une décision négative de l'OFPRA. En clair, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour passer directement à la case expulsion. Enfin, la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Une avancée pour les femmes, car l'accès à la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance, uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
On termine avec LFI parce que je disais que tous les dirigeants ramaient et Clémentine Autain était hier l'invitée de BFM. Et elle avait du mal à s'exprimer clairement sur une chose qui pourrait être claire, c'est-à-dire que M. Quatennens, peut-être devrait-il démissionner de son poste à l'Assemblée nationale. Il a reconnu lui-même avoir giflé son épouse. C'est un sujet important pour la France insoumise que les violences conjugales. Lui-même n'est donc pas en adéquation avec cette philosophie, si j'ose dire, ou ce programme. Il aurait pu, ou le mouvement pourrait lui demander de prendre retrait. Se mettre en retrait. Écoutez, Madame Autain.
On est aussi que c'est une épreuve pour notre mouvement, que c'est aussi très difficile sur le plan humain pour les êtres que nous sommes. On n'est pas des machines. Donc imaginez si ça vous arrive là dans la rédaction, qu'un de vos collègues, ça vous est arrivé.
Une décision a été prise.
Exactement. Mais donc vous pouvez vous souvenir. Voilà. Alors il y a des endroits où ça se prend plus ou moins vite, mais. Vous avez souvenir peut-être du choc que ça peut représenter, de l'émotion que ça peut susciter dans les équipes.
Non, on parle d'un élu de la République, c'est
exactement
la même chose.
Oui, mais on parle aussi d'un collectif humain, pardonnez-moi, les élus de la République.
Est-ce que cet élu de la République peut continuer à siéger, en fait, c'est ma question tout simplement.
Les élus de la République, et ça fait partie du sujet, les élus de la République sont aussi des êtres humains, et d'ailleurs, on essaie de leur demander qu'ils soient des êtres humains et ils ne sont pas hors la société. Donc il y a un devoir d'exemplarité. Et c'est parce qu'il y a ce devoir d'exemplarité, de cohérence entre les principes que nous défendons dans notre mouvement, à commencer en l'occurrence par la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, que nous avons rappelé dans le communiqué de presse que nous avons émis à la suite de la lettre d'Adrien Quatennens, de celle qu'il a rendue publique. Donc nous avons pesé les mots et nous avons dit que ce qui importait pour nous, c'est la cohérence avec les principes et que donc il se retirait.
Il y aura quand même à Mme Autain que quand c'est M. Abad, elle prend moins de gants.
Oui, et puis
si vous me permettez.
C'est la France insoumise, la victime de cette affaire, la victimisation, c'est une épreuve pour nous, c'est indécent. Le tweet de Mélenchon était indécent et cette défense est indécente, franchement.
Le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas d'échelle des sanctions.
Oui, c'est ça.
Au sein des entreprises, il y a le droit du travail. Moi, j'ai connu ça à Libération, j'ai eu un cas, mais on applique le droit du travail, qui n'est pas tout à fait adapté, mais enfin, en gros, il y a quand même des principes et il y a des garanties pour les prévenus, pour les gens qui sont accusés, pour protéger les salariés. Dans les associations et dans les partis, il n'y a rien. Et donc, on s'en remet à la justice ou alors on fait une justice privée. Mais la justice privée, c'est embêtant parce qu'on ne connaît pas les sanctions d'avance. Normalement, dans la vie pénale, quoi, il y a un code pénal. On dit, si vous faites ça, ben vous aurez 2 ans de prison. Si vous faites ça, vous aurez une amende. Dans les associations et les partis, ça n'existe pas.
Enfin, la France insoumise a établi un barème, mais pour les autres partis. Peut être démission immédiate.
Je pense que sauvage.
Mais oui, je parle d'un texte.
Laurent, si vous me permettez.
C'est ce qu'a dit Roussel, d'ailleurs. Il a dit les partis politiques. Les partis politiques devraient se réunir, ou les associations, d'ailleurs, en général, pour faire un texte.
Si vous me permettez, ce n'est pas tout à fait le sujet. Ça concerne toutes les personnes publiques, qu'elles soient aujourd'hui hommes politiques, pourquoi pas journalistes, pourquoi pas artistes. Tous ces gens-là qui vont au public, s'ils ne sont pas, sur le plan de l'éthique personnelle, je veux dire, convenables, pas si c'est le bon terme, en tout cas si...
Irréprochables.
Ils ne sont pas irréprochables, ils ne peuvent plus apparaître en public. C'est vrai pour vous, qui êtes un homme public. Si demain, on apprend que vous êtes... Évidemment, ça hommes, n'arrivera pas. Homme ou femme, d'ailleurs.
Non, non,
mais
femmes,
mêlé dans une affaire de violence conjugale, vous ne pouvez plus apparaître aujourd'hui sur aucune antenne. Alors ça, c'est un jugement qui est... Ouais, c'est la société qui juge.
Non, mais ça, c'est prévu dans le Code du travail. Hein. Ça porte atteinte à l'image de l'entreprise.
Oui, mais c'est bien que pour les personnes publiques...
J'ai employé cette...
Je suis d'accord avec vous, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui,
c'est vrai, par exemple,
Je ne sais pas si c'était vous qui étiez à la tête de Libération.
Attendez, je termine. Il y a un comédien célèbre qui, aujourd'hui, est complètement en dehors du système parce qu'il est accusé de... C'est pas violence conjugale en l'occurrence, puisque c'était avec, je crois, une compagne occasionnelle. Mais sa carrière s'est arrêtée. Tant que la justice n'est pas passée, sa carrière s'est arrêtée. Voilà. Et c'est vrai pour ça peut être vrai pour un journaliste, pour un homme politique, etc.
Je peux parler ?
Oui.
Non, allez-y.
Allez-y.
Une révolution largement positive.
Oui.
Je le précise.
Oui,
une révolution largement positive s'est produite dans les mœurs.
Oui.
Certaines minorités activistes ont concouru à cette révolution et cherchent d'ailleurs à l'heure actuelle à en profiter. Révolution positive, et pas peut-être positive, révolution positive. Cependant, il est de fait qu'à l'heure actuelle, on voit le tribunal des médias et de l'opinion se substituer à l'ordre judiciaire et pénétrer dans l'intimité des gens.
Oui, j'entends.
Attendez, mais c'est pas mineur, y compris pour les amener à des conséquences qu'ils n'ont pas voulu. La femme de Quatennens dit qu'en aucun cas elle ne souhaitait que cette affaire ait des conséquences.
Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi ?
Ça s'appelle la vie privée.
Non.
Ah bon ?
Non.
Ah bon ?
J'ai pas parlé à Céline Quatennens, mais j'imagine tout simplement qu'elle veut protéger l'image du père de sa fille auprès de sa fille. C'est sans doute aussi simple que ça. Et elle a le droit, d'ailleurs. Parce que les femmes, je termine, elles sont dans une contradiction.
Oui.
C'est que d'un côté, effectivement, elles souhaitent que ces pratiques ou ces violences conjugales prennent fin. Mais en même temps, elles ont le devoir, et elles le font toujours, de protéger auprès de leurs enfants l'image de leur père.
Je vous suggère une autre piste.
Pardonnez-moi.
Je vous suggère une autre piste. Il est probable que Mme Quatennens, sous l'effet d'une légitime colère, a déposé une main courante qui vient au secours de sa demande en divorce et que pour elle, c'était une charge qui devait être plaidée devant la justice contre son mari. Elle ne souhaitait pas pour autant les conséquences et que le pilori remplace la justice.
Eugénie Bastier, après on parle des villes moyennes, parce que M. Verdier est venu.
Évidemment que la gifle de Quatennens est un acte inadmissible, évidemment qu'il doit y avoir des sanctions. Mais moi, je suis d'accord avec Laurent Geoffroy, il n'y a pas de hiérarchie et j'ai un peu le sentiment d'un emballement. Et je me souviens de l'affaire de la Ligue du LOL. Vous vous souvenez, ces jeunes hommes. Oui, et vous avez renvoyé des gens de Libération. Est-ce qu'ils méritaient vraiment d'être renvoyés ? Je ne suis pas sûre.
À mon avis, oui.
Il y a eu un emballement. Il y a eu un emballement médiatique.
Avis, oui, mais les tribunaux...
Il y a eu plusieurs personnes qui ont été virées du jour au lendemain de leurs journaux sur des allégations.
Non, c'était pas des allégations.
Sur des accusations.
Je vous enverrai les pièces.
Ok, il y a eu quand même plusieurs de ces personnes qui ont gagné au prud'homme contre leurs employeurs.
Oui.
Et je pense qu'il y a eu un emballement médiatique à ce moment-là, donc
bon,
attention.
Mais ils n'ont pas été réintégrés. Hein.
Florian Bachelier, qui m'écoute régulièrement, qui nous écoute, dit « Il y a quelque chose que personne ne rappelle, une règle de droit, l'article 40 du Code de procédure pénale. Quand tu es élu, tu as l'obligation de dénoncer un délit ou un crime. Ne pas le faire est un délit. » C'est extrêmement important. Bon, on parlera tout à l'heure de Yannick Adeno, qui mène un combat juste, évidemment, puisque son fils, vous le savez, a été percuté une nuit dans Paris par un chauffard. Et il souhaiterait que les règles changent. Mais M. Verdier, je l'ai dit, vous êtes maire de Châteaudun, vous êtes venu aujourd'hui parce que vous voulez sauver les villes moyennes. Vous voulez sauver les villes moyennes. Bon. Ça veut dire quoi sauver les villes moyennes ? Comment sauver les villes moyennes ? Vous avez fait une tribune. Les 233 villes sous préfecture constituent la colonne vertébrale de la France. Et c'est vrai que quand on va dans une ville moyenne, il y a aujourd'hui pour avoir un scanner, par exemple, je vais prendre la ville d'Angoulême, pour avoir un scanner à Angoulême, à l'hôpital, c'est pas possible. C'est-à-dire que... Il y a des déserts médicaux, c'est des villes qui sont en très grande difficulté aujourd'hui. Comment faire ? Que faire ?
Nous, on plaide pour une politique de développement des territoires. On parle trop d'aménagement de territoire depuis 30-40 ans dans ce pays. Il faut faire une politique de développement de nos territoires. Il y a 233 villes sous préfecture, leurs intercommunalités, leurs bassins de vie. Moi, je suis président du Grand Châteaudun. Si on promeut ces villes, demain, la France ira mieux. Sur tous les sujets, la sécurité,
l'autorité.
Ça veut dire quoi ? En ayant des bons hôpitaux, comme vous l'avez dit, un bon hôpital OMCO. Moi, je vais avoir un IRM à Châteaudun, parce qu'on s'est battu avec l'Agence régionale de santé. Sur la sécurité, le ministre de l'Intérieur annonce plus de gendarmes. Allons sur ce terrain-là. Sur le développement industriel et économique, c'est pas à Paris qu'on fera les usines, c'est pas Paris 6e, ça sera à Châteaudun.
Et ça, ça dépend des locaux. Par exemple, la Vendée, c'est un département extrêmement dynamique.
Les herbiers.
Parce que les chefs d'entreprise en Vendée se sont mobilisés tout seuls. L'État ne peut parfois pas tout et les élus ne peuvent parfois pas tout.
Ça peut être la région, mais ça peut être dans le PLUI, le plan local d'urbanisme, PLUI. Où on peut avoir plus de foncier disponible dans nos villes sous-préfectures, à Vitry-le-François, à Aubusson, à Barcelonnette ou à Calais. Ça peut être aussi sur la partie de l'écologie positive. En tout cas, c'est le meilleur écosystème, le meilleur lieu. C'est ce qu'on mettait dans la tribune avec Dominique Bussereau et Jean-Pierre Jouyet fin août dans Le Monde, pour créer des expérimentations locales, créer du développement local. Parce que c'est dans ces territoires-là dont on a tant besoin qu'on peut le faire, du Finistère aux Alpes-Maritimes.
Mais j'entends ce que vous dites, mais j'ai besoin de choses un peu plus concrète.
Nous, on le fait concrètement à Châteaudun. Il y a un renouveau, un Avoir Vert qui arrive avec Tchouss-Fouins et le président de la République. Ça a été annoncé. Il y avait 14 projets en France. On a Avoir Vert qui arrive avec 57 millions d'euros.
On a quoi qui arrive ?
Avoir Vert, c'est le Thermomix. Ils fabriquent le Thermomix et ils vont le fabriquer dans une deuxième usine dans le Grand Châteaudun. C'est un robot ménager.
D'accord. Donc vous avez une entreprise qui arrive à Châteaudun.
Oui, une entreprise allemande. Une deuxième unité de production avec plus de 70 emplois.
Mais c'est parce que vous favorisez l'arrivée de cette industrie.
On les encourage, on leur trouve des terrains, on leur trouve une maîtrise foncière, un foncier disponible.
Et c'est pourquoi pas des avantages financiers ?
Ça peut être, mais ça peut être...
Des impôts locaux, des choses comme ça.
Oui, et puis parler de ces villes moyennes. On va faire un congrès, je vous invite tous, le 4 et 5 novembre à Châteaudun, en invitant des maires de ces villes sous-préfectures, en invitant des journalistes, des personnalités, pour parler de ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, qui connaît Vitry-le-François, Jonzac ou Barcelonnette ? Pas assez de monde. Et pourtant, je rappelle ça, et on le rappelait dans la tribune. Quand Napoléon fonde le corps préfectoral en 1800, les préfectures et les sous-préfectures, ils parlent de ces blocs de granit sur le sol de France. Et je pense que c'était surtout sur l'ordre public à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est en termes de développement économique, de développement industriel.
J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on est un pays centralisé. Par exemple, vous avez 18 ans, vous êtes à Châteaudun aujourd'hui, vous voulez faire une grande école. Comment vous faites ? Vous venez à Paris ?
Oui, on vient à Paris, on est un peu trop centralisé. On a 9 formations post-bac
à Châteaudun. Et si vous venez à Paris à 18 ans, la probabilité que vous y restiez est très forte ? C'est ça la réalité.
Parce que 72% des Parisiens veulent quitter Paris.
Ils veulent quitter Paris, oui. Mais le travail souvent de ces... On le trouve davantage à Paris qu'à... Parfois à Châteaudun.
J'illustre parfaitement notre politique. C'est que demain, il faut qu'à Châteaudun, à Jonzac et ailleurs, on trouve du boulot, on trouve du développement économique et on ait un cadre de vie.
J'entends bien, mais à Châteaudun, si vous n'êtes pas profession libérale, si vous voulez être cadre supérieur, bah forcément, j'imagine, le nombre de demandes est limité, le nombre d'offres, plus exactement, le nombre d'offres est limité.
Il y a des emplois dans le tertiaire, forcément. Chez Safran, ils recrutent des ingénieurs qualités.
Et on les trouve plus, c'est là, à Paris, évidemment, on aimerait tous vivre en dehors de Paris. Moi, j'adorerais vivre à la Boule.
Oui, mais alors, c'est la
Boule. Je peux demander, effectivement, à M. Nedjar de mettre le siège à la Boule de CNews, mais ça va être compliqué.
C'est la politique du statu quo et on attend que les extrêmes l'emportent. Non, il faut développer nos territoires. Et on a les possibilités aujourd'hui avec le très haut débit, avec le numérique. Je vous dis, Safran, on a 300 salariés, ils cherchent encore 50 personnes bien payées dans le territoire. Et on a toutes les possibilités.
En tout cas, c'est un débat, c'est un combat qui est neuf. Parce que vous aimez, qui par exemple, vous aimez vivre à Paris ?
Je me pose des questions, très régulièrement.
Vous êtes parisien ?
Non, je suis basque d'origine. J'ai grandi à Bayonne et Biarritz.
Oui, ah bah, c'est plus sympa quand même.
J'y retournerai bien, oui.
Bah oui.
J'y retournerai bien. Mais vous avez posé le problème. Quand vous avez même 15 ans, vous vous projetez, c'est forcément dans une autre ville. Peut-être pas Paris, mais une grande ville en tout cas.
Eugénie.
Moi, j'aime Paris parce que c'est le centre de la vie intellectuelle, de la vie médiatique. Mais c'est vrai que quand vous êtes de ma génération, pour acheter un appartement, une grande
ville. Et là, vous venez d'avoir deux enfants, par exemple. Il ne serait pas mieux à Biarritz sur les plages qu'être élevé dans les parcs à Paris ?
Ah oui, mais bon, je ne vais pas demander au Figaro et à CNews de déménager.
Eh bien, si, justement. Bon, vous, monsieur Geoffroy, vous êtes né dans Paris, vous êtes un Parisien.
Je suis né à Vincennes.
Oui.
Presque à Paris.
Oui.
J'ai toujours vécu à Paris, donc.
Oui, donc vous, pour vous, la province. Mais je crois que vous n'avez jamais quitté. Vous n'êtes jamais allé au-delà du périphérique, on m'a dit.
Quand il est né à Vincennes. Mais
c'est une provocation de base.
Même, on m'a dit que vous n'étiez jamais
sorti. Vous parliez.
On m'a dit que vous n'étiez jamais sorti du 6e arrondissement. Que vous n'aviez pas le droit.
Je vais vous expliquer un truc. J'en sais plus que vous sur la France, parce que j'ai dirigé pendant 30 ans des rédactions. Et il se trouve que les rédactions, vous avez à votre disposition 100 journalistes qui passent leur vie à faire des enquêtes sur le terrain et qui vous racontent ce qu'ils ont trouvé. Donc j'en sais trois fois plus que vous.
Mais je vous taquine.
Oui,
mais
c'est vrai que comme c'est un cliché qu'on entend souvent, j'ai une réponse toute faite.
Mais quand vous quittez votre 6e arrondissement et que vous venez jusqu'à Boulogne, c'est déjà pour vous une forme de voyage.
À Boulogne, c'est loin. Mais ça,
voilà, nous sommes ici. D'ailleurs, on n'est plus à Boulogne. On est à Issy-les-Moulineaux. Oui, ce qui a changé doublement vos habitudes. Vous êtes dans deux territoires étrangers que vous avez connus.
Franchement.
Il voyage.
Pas le Pascal Pro qu'on a connu, vraiment.
Bon, un sujet grave. Un sujet grave. Yannick Aleno, vous le connaissez, le chef français. Il est revenu sur la mort tragique de son fils Antoine, survenu en mai dernier, ainsi que sur la situation dramatique de sa compagne Anja sur RTL. Et dans le journal du dimanche, il avait d'ailleurs fait une interview que vous avez peut-être vue dans le JDD. Je vous propose d'écouter Yannick Aleno, avec beaucoup de dignité d'ailleurs, qui s'exprime, avec beaucoup aussi de courage, et qui a parlé... Les parents disent toujours cela... Ton enfant est mort à minuit, et il est 3 heures du matin, et il est à l'Hôtel Dieu. Et il raconte.
On s'est retrouvé à l'Hôtel Dieu dans une pièce, c'est même pas une pièce d'ailleurs, avec un fauteuil de bureau complètement déglingué, personne à l'accueil quasiment, et on nous a mis là, on s'est regardé, on fait mais tout seul, et un bout de papier dans la main. Bon, si vous avez besoin d'assistant psychologique, vous pouvez appeler tel numéro. On s'est regardé, puis à 3 heures du matin, on est rentré à la maison. Et
Seul.
Encore une fois, bon, on a la chance d'être une famille, donc le soutien est important de la famille, des amis, mais seul. Voilà. Donc c'est vrai que je crois qu'on mérite. Enfin, les gens ont besoin juste de d'un peu d'humanité dans ces moments-là qui sont quand même assez terribles.
Bah, ce que raconte Yannick Aleno, c'est la double peine, quoi. Le deuil terrible, inimaginable, et puis d'être abandonné. À soi-même, d'être seul avec son chagrin, sans la prise en charge minimale. C'est terrible.
Passage que je vous propose, c'est que son fils a été percuté par une voiture qui roulait à vive allure, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. Et il propose peut-être un changement pour ces voitures.
Pourquoi ces voitures aussi puissantes ne sont pas bridées en ville, par exemple ? Vous savez, ça change beaucoup de choses, parce que si vous prenez l'acte de dire « Ok, je débride ma voiture », c'est-à-dire je veux pas nuire à la liberté de vie des gens, c'est pas le sujet, mais quand on appuie sur un bouton de façon volontaire et qu'on dit « Je décide de rouler au-delà
de la limitation
bridée par l'électronique aujourd'hui, et je décide de rouler à 200 et tuer un enfant », j'en deviens responsable. C'est plus un homicide involontaire.
Vous voyez là, ce que il je veux a dire été mis...
Donc c'est une vraie question, effectivement. On vend des voitures qui peuvent rouler à 300 à l'heure alors que la limitation de vitesse sur l'autoroute est à 130. Puis le dernier passage que je voulais vous proposer, on lui a posé la question, c'est Amandine Bégaud d'ailleurs qui menait cette interview. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un ?
Non. Non, j'en veux à personne en fait. J'en veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant. Je crois qu'aujourd'hui, le système travaille avec les outils qu'il a. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que tous, on se retrouve autour de la table. Si je ne me sers pas de ce que la vie m'a apporté, en tout cas de notoriété pour aider les autres, la mort d'Antoine sert à rien, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est inacceptable que.
Ce serait lui faire honte, vous me disiez, ouais. Quand on a préparé cet entretien.
Ouais. Pas vrai, parce que c'est quelqu'un qui était généreux, dans l'altruisme. Un joli garçon, hein.
Et Yannick Aleno a donc lancé l'association Antoine Aleno, dont le but est de venir en aide aux familles de toutes les personnes de moins de 25 ans victimes d'un chauffard récidiviste, en leur offrant un soutien moral, psychologique et financier. Le combat d'Yannick Aleno, vous l'avez compris, est magnifique. Je vais vous remercier, Monsieur Verdier. C'est vrai qu'on aurait aimé vous accorder davantage d'audience ce matin. Vous avez compris que notre actualité était... bouleversé par ce qui s'est dit en Russie. Et à votre place, nous allons recevoir, nous allons parler de L'Épopée Joyeuse, qui est une série documentaire sur Canal+. Et nous allons être avec Yann Bucaille-Lanrezac, qui est le fondateur des Cafés Joyeux, que je salue. Bonjour, monsieur Bucaille-Lanrezac. Vous employez 85 et vous les avez appelés les équipiers, qui sont en situation de handicap mental. Ils sont autistes ou porteurs de trisomie 21. Ils sont serveurs, caissiers ou personnels de cuisine dans ces 8 coffee shops solidaires à Rennes, à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Et c'est évidemment une série documentaire qu'on pourra voir sur Canal en 4 épisodes de 40 minutes intitulée L'épopée joyeuse. C'est produit par Éric Toledano et Olivier Nakache. Ça sera diffusé à partir de demain. Et cette série suit le parcours de ces hommes et de ces femmes porteurs de troubles de spectre autistique ou en situation de handicap, d'habitude mis à l'écart de la vie professionnelle. Vous voyez ces images. Et qui, grâce au Café Joyeux, ont décroché un job. Et ce qu'il faut dire, monsieur Bucaille Lanrezac, c'est que ça marche. C'est ça qu'il faut dire. C'est que ça marche.
Oui, ça fonctionne. Je pense que c'est l'essentiel, c'est que y a une dimension, je pense, altruiste au départ, que tout le monde veut soutenir, qui est de s'adresser à des personnes en situation de fragilité qui sont au départ exclues du monde du travail à cause de leur handicap. Je vous entendais parler tout à l'heure de double peine. On est vraiment aussi dans la double peine. C'est-à-dire que on n'est pas tous égaux dans la vie. Certains ont plus de facilité que d'autres. Et là, sous prétexte que j'ai une différence, sous prétexte que je porte un handicap, je n'ai pas accès au monde du travail. Donc la volonté des Cafés Joyeux, c'est d'essayer à notre petite mesure de corriger ça. Et oui, ça fonctionne. Et c'est ça ce qui est important.
Et ça fonctionne des deux côtés. C'est-à-dire que les clients, je pense que sont sensibles, forcément, dans vos cafés, à d'une certaine manière participer à quelque chose où ils ont le sentiment que c'est bien ce qu'ils font. Vous voyez, oui. D'aider, même si parfois le serveur n'est pas aussi efficace ou performant qu'un serveur qui ne souffrirait pas de cet handicap.
Il est plus souriant, en tout cas.
Pardon ?
Il est plus souriant, en général.
Il peut être... Non, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont le sentiment, eux-mêmes, de participer à ce qui est une aventure collective.
Oui, si vous voulez, depuis qu'on existe, depuis 5 ans, on a reçu pas loin de 400 000 convives, oui, qui sont venus dans nos coffee shops pour un repas, pour un café, pour une pause, pour un déjeuner. Et le but, c'est que, bon, évidemment, il y a une grande partie de nos convives qui viennent parce qu'ils sont contents, ils ont le sentiment de faire une bonne action. Très bien. Mais ce qui est important, c'est qu'ils reviennent. Et ce qui est important, c'est que, en fait, ils soient touchés par le fait qu'au Café Joyeux, c'est bon. C'est pas parce que c'est opéré par une équipe qui est représentée à 70% ou 80% par des personnes avec handicap mental que ça doit être décevant. Non, c'est bon. C'est beau. On a une décoration qui est magnifique, qui a été faite de façon pro bono par Sarah Lavoine. Donc on veut vraiment faire envie. L'idée... Et c'est le plus grand service qu'on puisse rendre à nos équipiers joyeux, c'est qu'ils soient fiers de montrer qu'ils peuvent créer de la valeur avec des plats qui sont préparés. Toutes nos recettes sont faites par Thierry Marx et il les a faites de telle sorte que nos équipiers joyeux puissent les réaliser eux-mêmes. C'est ça le but, c'est qu'on n'est pas là pour faire semblant. Il y a parfois des...
Mais tous vos serveurs sont en situation de handicap ?
Dans un café, vous avez 70 à 80% de nos équipes sont avec handicap.
D'accord.
Et le reste, les 20% restants, sont des professionnels de la restauration qui les encadrent, qui sont des managers incroyables.
Il n'y a pas de démission ? Il n'y a pas de gens qui ne s'adaptent pas ?
Alors, aujourd'hui, on a une centaine d'équipiers joyeux. Ouais. Je vais vous dire, ça, c'est une grande force, une grande chance. Autant, évidemment, on a un concept qui est fragile, sans jeu de mots, sur le plan économique. Autant, parce que la restauration, c'est dur. Mmh. Autant, on a un énorme atout, c'est qu'on n'a pas de turnover. C'est que nos équipiers, ils sont contents.
Vous avez fondé ces Cafés Joyeux en quelle année ?
En 2007. Donc, ce qui est bien, c'est que...
Donc, ça fait 15 ans.
Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est-à-dire que ce documentaire tombe vraiment à pic. On a fêté les 5 ans au moment de la sortie du documentaire.
Et on voit Emmanuel Macron avec Brigitte Macron qui vous ont aidé peut-être, en tout cas, qui vous ont accompagné.
Oui, alors en fait, on a eu la chance d'avoir un Café Joyeux qui nous a été mis, enfin un emplacement qui nous a été mis à disposition de façon gratuite en haut de l'avenue des Champs. Et pour nous, c'est tout un symbole de pouvoir montrer au monde entier que la France a aussi une image inclusive. Je veux dire, la plus belle avenue du monde, le café le plus proche de l'Arc de Triomphe, et à cette occasion-là...
À gauche en montant ou à droite ?
À droite en montant.
À droite en montant.
Oui. Vous aviez un cinéma qui s'appelait Gaumont, qui a fermé, et en fait, il y avait une ancienne pizzeria, et on a repris cet emplacement, ça fait 2 ans qu'on opère là.
Et donc ça, c'était un local qui appartient à qui ?
C'est une foncière, qui s'appelle Groupama, française,
et qui
nous a généreusement... L'emplacement était vide, Et il a dit, mais allez, je vais vous...
Parce que vous... C'est combien de mètres carrés?
Là, il y a 350 mètres carrés. Autant vous dire incapable de payer un loyer.
350 mètres carrés sur les Champs-Élysées, si vous voulez louer ça au mois, c'est une fortune.
Une fortune, une fortune. Mais ce qui est beau dans ce projet, c'est qu'il y a de la générosité qui se fédère.
Et vous l'avez pour combien de temps, ce local?
Alors, bonne question. Bonne question, parce qu'on est toujours dans une forme d'incertitude. On a recruté 25 équipiers joyeux pour ce café. Et effectivement, théoriquement, on est censé rendre les clés avant la fin de l'année, mais j'ai un bon espoir de...
C'est Groupama.
Oui, alors ça a été annoncé lundi, ça a été vendu à une autre foncière. Il se trouve que ça a été vendu, c'était annoncé lundi, et mon Groupama a cédé le...
Et l'autre foncière, elle s'appelle comment? Parce qu'on va lancer un appel, tant qu'à faire.
Alors, puisque vous me posez la question, Pascal, vous êtes sympa, elle s'appelle Brookfield, c'est une plus grosse société d'asset management américaine, Brookfield.
Ouais. Ah, bon... Là, c'est une société étrangère. J'espère que ça marchera aussi.
Moi, je peux témoigner personnellement parce que ma belle-sœur Anne France est porteuse de trisomie 21 et travaille dans un de vos cafés. Et je peux vous dire que ça a changé sa vie et que ça l'épanouit énormément, surtout d'être en contact avec les autres. Et je trouve que dans une époque où on parle beaucoup d'inclusivité, parfois un peu à tort et à travers, vous montrez un bel exemple concret, vivant, de ce que c'est la vraie inclusivité.
Ah, vous êtes sympa, mais Anne-France, je la connais bien, elle est incroyable, incroyable. Elle dégage quelque chose comme tous nos équipiers joyeux, mais elle, quelque part, c'est elle qui nous rend service. Parce qu'à travailler pignon sur rue, elle permet à la société, on parlait de ville moyenne, ce qui compte, c'est le vivre ensemble. C'est ça la cité. Et finalement, elle permet à beaucoup de personnes, finalement, de changer le regard. Et on a des témoignages, grâce à Anne France et grâce à beaucoup de nos équipiers joyeux, des témoignages qui sont parfois édifiants, quoi.
À Paris, donc, il y a un café joyeux?
À Paris, on en a trois.
Trois, donc sur les Champs?
Sur les Champs, on en a un à Opéra, près de Passage Choiseul, et puis un autre avenue Boulevard de la Madeleine, qui est en face de l'Olympia, qui est très beau. C'est là où travaille Anne France, d'ailleurs.
Et autrement, en province, on l'a dit, il y a Rennes.
Oui.
Il y a Lyon.
Exactement.
Il y a Bordeaux, j'imagine qu'il y en a peut-être qui sont...
Oui, et alors il y en a beaucoup. On a trois cafés joyeux qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Il y en a un à Parly 2, dans un centre commercial, on fait un test. On a ouvert à Tours, on va ouvrir à Lille, on va ouvrir à Montpellier.
Il y a une carte de brasserie.
Oui,
exactement. Accessible.
C'est un ticket moyen à 15 euros et tout est cuisiné sur place.
Allez-y. Et puis sur Canal, une série documentaire, je le répète, en 4 épisodes, 40 minutes, intitulée L'épopée joyeuse. Et c'est diffusé à partir de demain en deuxième partie de soirée sur Canal. Audrey Berthaud est là. Je vais vous remercier. Évidemment, on est inquiet puisque l'info principale, c'est la déclaration de Vladimir Poutine. On a le sentiment d'une escalade ce matin. On a le sentiment qu'une menace nucléaire plane sur le monde. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot avant d'écouter Audrey Berthaud. Je ne sais pas si cette inquiétude, vous la partagez.
Avec Poutine, le pire est toujours sûr. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, oui.
Un message d'optimiste.
Les hommes politiques devraient lire ou relire Les Somnambules.
Les Somnambules, qui est un livre...
Le livre de M. Clark, qui raconte comment est né et a grandi le conflit qui a mené à la guerre de 14.
Eh bien écoutez, Les Somnambules, je le nomme, je l'écris et je vais le lire puisque je ne l'ai pas lu.
Passionnant.
Les Somnambules.
Un livre formidable.
Oui.
Audrey Berthaud.
Dans les Yvelines, un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux hommes. Il se trouvait avec trois amis sur le parking du McDrive de Vélizy. Les suspects sont deux livreurs âgés de 18 et 19 ans. L'auteur des coups de couteau a été condamné à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et 1 an de sursis. Son complice, 18 mois de prison ferme, dont 6 mois sous bracelet électronique et 12 mois de sursis. La Russie reconnaît 5937 soldats tués en Ukraine depuis le début de son offensive. C'est une annonce du ministre de la Défense dans un entretien télévisé. Un bilan largement en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales. Enfin, un astronaute américain et 2 cosmonautes russes doivent décoller aujourd'hui à 15h54 heure française à destination de la Station spatiale internationale. Un voyage qui représente un rare signe de coopération en pleine tension liée à l'offensive en Ukraine.
Les somnambules, été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre. C'est un livre de Christopher Clark qui a paru ces dernières années, manifestement. Je remercie Marine Lançon et toute l'équipe de CNews qui s'est adaptée évidemment aux infos du jour. Henri de Mérindol était à la réalisation, Rodrigue Le Prado était au son, Alice Maillet était à la vision, Alice Mallet, Marine Lançon bien sûr et Justine Cerquera qui est de retour avec nous. Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir.